archives de l'écologie. François Bernard.
Bienvenue à l'écoute des archives de l'écologie. La guerre dans le Moyen-Orient se poursuit et elle provoque déjà plus de 3 millions de déplacés, principalement en Iran et au Liban. C'est un chiffre donné par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Et il met l'accent sur les problèmes auxquels sont confrontés ceux qui sont pris dans la tourmente de la guerre et doivent se sauver pour survivre. Les conflits produisent toujours leur lot de réfugiés. L'archive d'aujourd'hui nous transporte en 1999, quand les habitants du Kosovo fuient la guerre et cherchent refuge en Albanie voisine. Cet afflux met le territoire d'accueil en difficulté, comme nous le rappelle ce reportage de RFI, produit donc en juillet 1999 et diffusé 27 ans plus tard dans les archives de l'écologie sur Alternante. On l'écoute ensemble, on se retrouve juste après.
Fréquence Terre.
Véronique Guémard, aujourd'hui sur Fréquence Terre, comment organiser l'espace pour accueillir l'afflux massif de réfugiés lors d'un conflit ? L'exemple du Kosovo.
Jemi kërë një armët që kanë krizë në akosh, jemi dalë e kemi qyrë për dere. Kur jemi dalë për dere, ka krizë.
Les témoignages que vous entendez ont été recueillis en avril 1999, trois semaines après le début du conflit du Kosovo. Jamel raconte la fuite forcée de son village de Yako. Après deux semaines cachées dans les montagnes avec l'armée de résistance de Lucheka, il décide de partir avec sa famille vers le Monténégro, faute de nourriture et de médicaments. Il traverse les hautes montagnes avec femmes, enfants et vieillards, dans la neige et le froid. Un enfant de deux ans ne résistera pas. Arrivé au Monténégro, il est accueilli dans la petite ville de Rojaje, à 15 km de la limite administrative avec le Kosovo et entassé avec des centaines d'autres Albanais du Kosovo qui, comme lui, ont dû fuir leur maison. Depuis, la paix a été signée et plus d'un million de réfugiés doivent retourner chez eux dans une région dévastée. Entre le début d'un conflit et le retour à la paix, comment les organisations humanitaires, les administrations locales et les réfugiés eux-mêmes gèrent-ils leur espace et leur survie ? L'exemple du Monténégro, où des usines désaffectées hébergent ces milliers de déplacés. Plus de 800 dans l'usine Décor, 2500 dans l'usine Cristal. Peu de moyens et peu d'aide internationale. Écoutez ce témoignage.
Ça fait longtemps que vous êtes ici ?
Depuis deux semaines.
Vous vous appelez comment ?
Maïe Mustafaï.
Deux semaines. Vous venez d'où ?
De Istok.
Pourquoi vous êtes partie ?
On nous a chassés de la maison. Ils sont venus.
Qui ?
L'armée. Ils sont venus avec des masques dans la maison, avec une arme dans la bouche. Je te donne 24 heures de quitter ta maison, sinon je te tue.
Et vous êtes venue avec votre famille ?
Oui, avec mon mari. Mes deux enfants et les voisins. Ma belle-mère est restée là-bas. Elle était paralysée, malade. On n'a pas pu l'emporter ici.
Et le voyage, ça durait combien de temps ?
Ben là-bas, on a marché avec des camions pendant 5 heures, par exemple. Puis on a dû rester une nuit dans la montagne. Puis le lendemain, on a dû marcher à pied jusqu'à ici.
Comment vous avez été reçue ici ?
Bah bien, mais je ne sais pas comment vous dire. Voilà.
Oui, donc il y a des lits partout, des matelas partout.
Les lits sont
des couvertures.
Oui, des couvertures. Mais il n'y a pas pour tout le monde.
Et la nourriture ?
La nourriture, une fois on doit manger par ici.
La nourriture, c'est quoi ? C'est de l'aide humanitaire alors ?
Oui, c'est de l'aide humanitaire.
Et ici, est-ce qu'il y a des problèmes sanitaires ?
Il y en a parce qu'il n'y a pas beaucoup de médicaments et les enfants sont malades. Tous, catastrophe les enfants, tous et tous, la bouche.
Il n'y a pas encore d'épidémie, il y a des problèmes avec l'eau ?
Ben, si vous voulez vous montrer comment c'est l'eau, ben, je ne sais pas.
C'est à quel endroit ?
Ben, ici. Venez voir. C'est ici, l'eau, pour boire, pour se laver et tout, voilà.
Donc en fait, c'est une toute petite pièce. C'est une toilette, en fait.
Il n'y a pas de toilette aujourd'hui.
Il n'y a pas de toilette. Les toilettes, c'est dans la nature.
Dans la nature, oui.
Et ici, donc, on a juste un lavabo. Uniquement un lavabo, avec l'eau qui coule en permanence.
Je ne sais pas ce qui va se passer avec nous comme ça. Si on reste encore une semaine, peut-être on va tous mourir ici. Je ne sais pas, les enfants sont malades, pas d'hygiène, on ne peut pas avoir d'hygiène quand il y a beaucoup de monde ici.
Il y a des médecins?
Il y en a, mais pas de médicaments. Les médecins seulement, la consultation on le fait, mais pas de médicaments.
La situation sanitaire des 20 000 déplacés du nord du Monténégro était très préoccupante en avril dernier, selon les quelques organisations non gouvernementales présentes à Rojaïe. Guy Cosset, de Médecins du Monde, devant l'usine Cristal.
Les besoins ils sont énormes parce que ce sont des populations qui sont sinistrées à trois niveaux. D'abord parce qu'elles ont été obligées de quitter leur maison, leur ville, leur village dans des délais extrêmement brefs, ce qui les a mis sur la route et sur les chemins en montagne, puisque nous sommes entourés encore de neige autour de Rojaïe. Donc c'est ce dénuement complet de ces personnes qui arrivent sur Rojaïe sans rien, sans même un sac et sans même un bagage, femmes, enfants, adultes qui ont pu fuir à travers les montagnes, marchant pendant 12 à 15 heures parfois par jour, et ça sur 1, 2 ou 3 jours. Donc ils arrivent là, dans ce dénuement physique complet, avec le choc psychologique de n'avoir pas pu un instant préparer leur départ. Et c'est pour cela qu'on les retrouve ici, et que la demande d'aide médicale est non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique.
Et l'aide est en train d'arriver ?
Il faut qu'on y aille.
L'aide est en train d'arriver, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup trop lentement, car il y a très peu d'associations humanitaires qui ont encore rejoint ce nord du Monténégro, dans ces régions montagneuses. Et on peut dire ici que nous avons les réfugiés oubliés dans toute la problématique de cette situation des réfugiés sur l'ensemble du territoire.
Il faut dire que le Monténégro était dans une situation bien particulière. Son président était contre la guerre et cette petite république fait partie de la Yougoslavie. Les explications de Corinne Pertuis, porte-parole du Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, à Paris.
On ne s'occupe que de réfugiés, et quand on parle de réfugiés au Monténégro, c'est faux, ce sont des déplacés. Ce sont des citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, donc le pouvoir qui s'exerce au Monténégro, c'est quand même Belgrade. Et là, on a affaire à des Kosovars d'origine albanaise qui fuient le pouvoir de Belgrade et qui se retrouvent dans une région gouvernée par Belgrade. Donc on observe une difficulté d'accès auprès de ces réfugiés, et puis aussi peut-être une moins grande envie d'aller travailler là-bas pour les autres organisations non gouvernementales, parce que c'est plus difficile, parce qu'on est encore en zone gouvernée par Belgrade. Et c'est vrai que les réfugiés eux-mêmes, qui ont peut-être reçu moins d'assistance au Monténégro, ont aussi eu tendance à partir de là. On a vu très vite qu'ils ont pris le chemin de Zagreb vers la Croatie, ou même de Sarajevo en Bosnie, ou encore de l'Albanie. Il n'y a que 70 000 réfugiés déplacés, donc au Monténégro, il y en a plus de 400 000 en Albanie, et ce n'est pas un hasard, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise en Albanie avec leurs frères albanais qu'au Monténégro, où ils ont encore affaire à la police de Belgrade. Bon, il n'y a pas de conférence internationale sur les déplacés, il n'y a pas de protection internationale des déplacés, et au Monténégro, c'est là où on voit que la sécurité n'est pas assurée pour ces populations déplacées.
On y va.
Combien pas qu'il faut que je donne à lui? Ils sont 2500. Là-bas, ils sont 500. Combien pas que je donne à lui? Hein?
Nadibé est arrivée à l'usine de Cristal de Rojaïe avec son fils, 2 semaines après le début du conflit. Elle aussi a dû traverser les montagnes depuis la ville de Peć au Kosovo. Active, elle a offert son aide à la Croix-Rouge locale et aux organisations humanitaires pour distribuer les couvertures et de la nourriture.
Je suis ici avec mon fils, et mon mari, avec ma belle-fille et puis 2 petits enfants qui sont partis à Albanie. Les polices de Peć, ils sont mettés à un grand camion et ils sont envoyés à Albanie. Et moi, avec mon fils, on a resté Après 2 jours, on est venu ici. Il faut que je reste ici avec mon fils. Parce qu'on ne travaille pas et puis on n'a pas d'argent.
Pour aller vers l'Albanie?
Non, il faut que je reste ici.
Et vous avez un contact avec votre mari?
Non, je ne sais pas où il est, non. Ils m'ont dit qu'il est à Albanie, à quel village où il est, je ne sais pas.
Vous avez de la famille en Albanie?
Non, je n'ai personne. J'espère que je peux le trouver avec la Croix Rouge.
Avec la Croix Rouge?
Oui, Croix Rouge.
En attendant donc de retrouver votre famille,
oui.
Vous restez ici,
oui,
à Rosaille,
oui.
Et vous essayez d'aider la Croix-Rouge,
oui.
Enfin,
oui.
Vous êtes proposé pour faire la distribution.
Je me suis proposé moi seule avec mon fils. Mon fils aussi. Qu'est-ce qu'on peut aider à quelqu'un? Nous sommes ici et puis pour distribuer, pour donner à manger, ça.
Les gens sont très choqués quand ils arrivent ici.
Oui, ils sont choqués, ils sont fatigués, ils ont peur. Il y a des blessés beaucoup, il y a des malades, tout. Il y a beaucoup de familles qui ont perdu sa famille, ils l'ont tué à Kosovo.
En sortant de l'usine Cristal où s'entassaient parfois sur des matelas, parfois sur des cartons, des centaines de déplacés, dehors, les enfants couraient et certains jouaient à la guerre. Comment gérer cet afflux d'hommes et surtout de femmes, d'enfants et de vieillards désespérés aux abords des frontières? Comment organiser l'aide pour plus d'un million de réfugiés? Corinne Pertuis du HCR.
Dans l'année écoulée 98, au début 99 et même 3 jours après le début des bombardements par l'OTAN, on avait affaire à un flux de réfugiés classiques, de gens qui avaient le temps de s'organiser pour partir, même si la menace était réelle, mais qui avaient le temps de dire, bah tiens, je vais aller vers la Macédoine. Et les premiers jours, c'était vers la Macédoine que les réfugiés kosovars allaient, et la dernière année, c'était vers la Macédoine. En aucun cas, les Kosovars n'avaient envie d'aller vers l'Albanie, ils savaient que c'était un pays très pauvre et que leurs cousins albanais ne pourraient en aucun cas venir en aide à ce flux de réfugiés. Après 3 jours, donc le 27 mars de cette année, là ça a été complètement différent. C'était plus un flot de réfugiés classiques qui avaient le temps de se retourner, de s'organiser. C'était une déportation. On a eu affaire à une séparation des femmes et des hommes. Les hommes ont eu le temps pour certains de s'enfuir dans la montagne, les autres ont été kidnappés par les forces serbes et les femmes ont été forcées sur les routes à partir avec les enfants, pieds nus, sans baluchons, sans rien. Et là ils ont été orientés vers la frontière albanaise. Ils devaient à la fois franchir les forces serbes, la frontière minée et de l'autre côté il y avait l'armée albanaise. Donc là, on a été pris au dépourvu. Il a fallu quelques jours pour réagir. Mais la frontière albanaise, ce sont des montagnes. On n'a aucun moyen logistique. Donc on a fait appel aux États. Le gouvernement britannique nous a donné immédiatement un avion pour qu'on puisse aller chercher notre stock. On avait un stock important à Amsterdam, en Hollande. On a aussi demandé des camions. Certains gouvernements nous ont donné des camions pour amener le stock pour 100 000 personnes qu'on avait à Tirana. Mais là, ça a pris quelques jours parce que vous mettez 10 camions sur la route entre Tirana et Kukesh, la frontière entre l'Albanie et le Kosovo, et c'était déjà l'embouteillage. Donc problème logistique. Et par là-dessus, dans cette crise-là, il y a eu un tel effort national des pays qui voulaient absolument montrer toute leur mobilisation face aux réfugiés kosovars qu'on a eu trop d'acteurs, on a eu une multiplication des acteurs. Alors ça, c'est peut-être la deuxième difficulté qu'on a quand on travaille dans l'urgence.
Donc un manque de coordination?
Nous sommes chargés de la coordination, mais encore faut-il qu'on nous donne là encore les moyens de coordonner. Si le gouvernement français décide d'envoyer un avion sans nous dire qu'il y a un avion qui part, avec quoi à l'intérieur, et à qui c'est destiné, à quel réfugié, vous risquez d'avoir des réfugiés qui reçoivent 2 fois de l'aide. Une fois de l'aide du gouvernement italien et puis une fois de l'aide du gouvernement français. Si nous, on n'est pas là pour voir quelle est la situation et organiser un peu tout ça, et je pense qu'il y en a qui ont eu 2 fois à manger ou qui ont eu 2 fois un lit de camp, et bon, ils n'ont pas été le proclamer sur les toits parce qu'ils ont dû revendre au marché noir. Enfin, tout ça, il y a toujours quelqu'un qui en profite. Mais nous qui sommes chargés de la coordination, il faut un minimum de bonne volonté de la part des partenaires et des acteurs. Et souvent, on a une profusion des acteurs quand c'est une crise médiatisée. La visibilité est très importante dans cette crise. Il fallait que tout le monde soit vu à côté de son réfugié kosovar pour montrer qu'il faisait quelque chose.
La population de l'Albanie a augmenté de 15% en 4 semaines, avec 444 000 réfugiés. La question de l'aide était d'autant plus compliquée que l'Albanie se trouve dans une situation économique très difficile. Notre reporter Maha Fayek, sur place en avril 1999, a pu constater, à mesure qu'elle s'éloignait de la frontière du Kosovo vers le sud, que l'aide internationale s'amenuisait et que les systèmes d'adduction d'eau étaient pratiquement inexistants. Sur place, Pierre Fouillon, médecin volontaire auprès de l'organisation Médecins du Monde, lui explique cette particularité au sein de l'Europe.
Je crois que la grosse différence, c'est que nous sommes en Europe entourés de pays qui ont un développement totalement différent au niveau, de, bien entendu, des conditions socio-économiques. Lorsqu'une catastrophe se produit en Afrique, on peut penser à la guerre du Rwanda, on peut penser à d'autres catastrophes qui se sont produites en Afrique, nous sommes dans un environnement général où les pays limitrophes ont des conditions socio-économiques similaires, très voisines. Lorsqu'il y a une catastrophe, un tremblement de terre en Arménie, qui était à ce moment-là encore en Union soviétique, les pays limitrophes avaient le même niveau socio-économique de développement. Ici, la situation paradoxale, c'est qu'il y a une crise qui est grave, qui en fait vient complètement bouleverser et mettre au grand jour des conditions socio-économiques dans un pays qui est en pleine Europe, entouré de pays qui sont des pays développés, qui ont pour certains leurs problèmes les uns par rapport aux autres, mais qui n'ont rien à voir avec le niveau auquel se situe l'Albanie. Rien à voir. Donc on se retrouve vraiment dans une situation que nous n'avons connue nulle part. Et c'est, je crois, ce qui fait l'originalité de ce qui se passe actuellement vis-à-vis de ce problème des réfugiés du Kosovo en Albanie. L'Albanie, avant les problèmes du Kosovo, c'était déjà une situation extrêmement difficile. Ils ont appelé à l'aide la communauté européenne depuis des années pour avoir une aide massive. L'aide est arrivée, je dirais, petitement, de la part aussi bien des gouvernants que des ONG, d'associations privées ou autres. Mais compte tenu des problèmes et du décalage extrêmement important de l'Albanie par rapport aux autres pays, l'aide était totalement insuffisante. Donc là, la situation ne fait qu'éclater au grand jour. Le problème du Kosovo n'a fait qu'empirer, bien entendu, cette situation et la démultiplier.
Dans de telles conditions, est-il dérisoire de prendre en compte l'environnement ? Comment choisir un site pour héberger des milliers de réfugiés et établir un camp viable sur la durée ?
Tout dépend du pays d'asile. C'est le pays d'asile qui nous donne l'autorisation de nous installer sur certains sites. Et nous négocions en permanence, d'une part, que la frontière reste ouverte, deuxièmement, qu'il n'y ait pas de refoulement des réfugiés, comme il y a eu lieu en Macédoine, et troisièmement, le gouvernement doit nous donner des sites où il doit tolérer des réfugiés pour un certain temps. Alors, il faut voir tous les problèmes de propriété. En Albanie, on a eu plusieurs problèmes. On a installé certains sites et tout d'un coup, il y avait le vrai propriétaire qui arrivait avec son beau titre de propriété et qui voulait expulser tout le monde. Non, mais non, le gouvernement a dit ça, mais moi je vous assure que je suis le propriétaire, qu'il n'est pas question que les réfugiés viennent ici. On a ce genre de problème constamment, mais nous sommes là pour essayer d'arranger les choses et surtout qu'on nous assure une place tranquille parce que le travail humanitaire, c'est pas la va-vite, c'est pas ce qu'on voit, c'est pas seulement l'urgence, c'est pour plusieurs semaines, plusieurs mois, quelquefois plusieurs années. Donc on se doit d'être responsable de l'installation de masse importante, de camps de 3000, 4000 personnes. À nous de voir quelle infrastructure il faut mettre en place. Donc une fois qu'on sait que c'est là, après il faut voir tout ce qui est l'eau, l'environnement, faire attention à ce que l'environnement ne soit pas trop abîmé, bien sûr pour leur environnement lui-même, mais aussi pour les réfugiés. À moyen terme, un bon environnement pour les réfugiés, ça veut dire la vie. Dans l'urgence, c'est peut-être donner la nourriture, c'est peut-être donner une bâche, mais à moyen terme, la survie des réfugiés, c'est surtout avoir une eau potable et de pas avoir de dysenterie ou de choléra qui se propage simplement parce que les latrines sont mises au mauvais endroit. Il y a une autre dimension aussi, tout ce qui est personnes vulnérables, on en parle souvent, c'est les femmes, les enfants, les handicapés, les vieillards, à nous, à Cher, de repérer quelles sont ces personnes et de faire en sorte que les femmes soient en sécurité quand elles vont chercher l'eau au puits, qu'elles ne soient pas violées, qu'il n'y arrive pas des problèmes, parce qu'un camp, c'est comme un grand village. Il y a le même genre de problème de sécurité que dans une grande ville. À nous d'assurer la sécurité, encore une fois, avec le pays d'accueil. Nous ne faisons pas la police, c'est la police locale qui doit faire la sécurité, mais ça, c'est dans ces pays-là, qui sont souvent des pays pauvres, sous-développés, où on connaît la corruption, ça, c'est un gros problème qu'on doit régler.
Du Cambrésy, est-ce qu'aujourd'hui, justement, le fait de devoir gérer des urgences de la part d'ONG, différentes organisations non gouvernementales, le HCR, donc le Haut Commissariat aux réfugiés, quand il y a une situation de conflit, un afflux aussi massif de population, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte cette donnée environnementale?
Il faut absolument la placer en priorité au même titre que la satisfaction des besoins les plus urgents. Pour une raison simple, c'est que d'abord c'est une nécessité pour la vie des réfugiés et puis aussi pour le respect du territoire d'accueil et donc des populations locales qui sont là. Donc ça fait déjà au moins deux bonnes raisons. Mais c'est aussi, j'en rajouterai une troisième, c'est que si on ne se préoccupe pas des questions environnementales dès le début, très rapidement, la question environnementale deviendra un sujet de négociation supplémentaire avec le pays d'accueil. Ben, on l'a très bien vu dans le cadre de la Tanzanie et d'une façon plus générale de l'accueil des réfugiés rwandais, burundais ou dans la région des Grands Lacs. Très rapidement, la dégradation de l'environnement devient un des arguments avancés par les pays d'accueil pour dire au HCR, vos réfugiés, on n'en veut plus. Et donc, ça devient un instrument de négociation, mais aussi une façon d'éventuelle de faire monter les enchères et donc de faire payer le prix fort pour l'accueil des réfugiés. On n'a été pas loin du cas, je crois, où la question se posait de faire une évaluation chiffrée de ces dégradations environnementales. Sous-entendu, il a été dégradé pour tant de millions de dollars, si tant est qu'on puisse faire ce genre d'évaluation, parce que ça c'est un autre problème, et donc remboursez-nous. Donc pour éviter de se trouver devant ce genre de situation, le mieux est encore d'affronter la question dès qu'elle se pose.
Luc Cambresi, géographe à l'Institut de Recherche et de Développement, l'IRD, travaille avec le HCR pour améliorer les systèmes d'aide aux réfugiés. L'aide internationale pourra sans doute bénéficier aux pays pauvres tels que l'Albanie si les organisations décident par exemple de la construction durable de systèmes d'assainissement et d'écoulement des eaux qui jusqu'ici se mélangeaient aux pollutions déversées par les usines dans les rivières. Mais la principale préoccupation des réfugiés, c'est le retour chez eux. Nous retrouvons Maillé à l'usine Décor de Rojaillé, au nord du Monténégro.
On ne sait pas où aller, on ne sait pas d'argent, pas de rien du tout.
Vous n'avez pas de famille ?
On a ma famille maintenant restée là-bas, mon père, ma mère, mes deux sœurs.
Mais des familles, des cousins ici au Monténégro?
Non, ici j'en ai pas.
Et l'espoir de retourner?
L'espoir de... très très peu. On voudrait bien, c'est notre... Maintenant ma maison, ils m'ont brûlé. Où est-ce que je vais aller maintenant?
Ils ont brûlé votre maison?
Oui. Ils m'ont dit comme ça, quand ceux qui viennent venir maintenant, ils disent... Moi-même, je voudrais bien aller maintenant chez mon frère. J'ai mon frère en Belgique, ma sœur en Amérique. Je ne sais pas où aller. Ici, la vie est chère, pas d'argent, je ne sais pas comment.
Organiser le retour, ça peut être évident, puisque la plupart ont tout perdu sur place.
Oui, on n'imagine pas les difficultés du retour. On a l'impression que le retour, c'est facile parce que, ben voilà, ils peuvent rentrer chez eux, c'est la paix. Et la vie va recommencer comme avant. Non, la vie ne recommence pas comme avant. Ils retrouvent un pays totalement dévasté. Il faut d'abord reconstruire, redonner un abri à ces personnes-là. Il n'est pas question pour le HCR de refaire des camps de réfugiés, mais cette fois à l'intérieur du pays que les réfugiés ont quitté. Donc on ne va pas refaire des camps de réfugiés à l'intérieur du Kosovo. Reconstruire, c'est aussi faire attention aux mines. Les mines sont partout, on ne peut pas cultiver les champs, et là on a affaire à des villageois qui ont comme ressources économiques d'aller dans les champs et de cultiver la terre. Comment vont-ils faire? Il faut donner les moyens économiques. C'est le problème de la Bosnie à l'heure actuelle, c'est qu'on a eu un retour massif de réfugiés, mais ce sont des gens qui n'ont rien à faire, et la Bosnie est capoute complètement économiquement, il n'y a plus rien à faire. Donc redonner une structure économique, ça c'est la reconstruction, c'est sur le long terme, et sans compter les problèmes de sécurité qui sont toujours immenses dans ces zones-là. La démilitarisation, c'est pas seulement signer un accord de paix, c'est pas seulement une force internationale, c'est dominer des tirs isolés, des petits groupes qui n'ont pas été d'accord avec ce plan de paix, et toujours du terrorisme en quelque sorte à l'intérieur des pays. Là, il va falloir être très présent et protéger une population civile qui rentre. Là aussi, ça met en danger les humanitaires. On a vu les prises d'otages en Tchétchénie ou ailleurs. On prend le risque de rentrer alors que c'est pas encore la paix, c'est la non-guerre, mais il faut reconstruire des maisons, il faut reconstruire une vie passée et il faut reconstruire un semblant de vie normale.
C'était Fréquence Terre, une émission du service magazine de Radio France Internationale. Réalisation Marc Delouvrier, mixage Joël Pochon, reportage et entretien Véronique Guémard et Maha Fayek. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à RFI Service Magazine, 104 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris, France.
Voilà, reportage produit en juillet 1999 qui nous ramène à la situation d'aujourd'hui. Plus de 3 millions de déplacés, je vous le disais, 3 millions de personnes dans le désarroi qui fuient les zones de bombardement ou d'insécurité. La plupart sont en Iran et fuient pour se mettre à l'abri à l'écart des grandes villes. Les organisations humanitaires vont prendre leur part pour aider les réfugiés de cette guerre. Nous verrons dans les semaines qui viennent comment elles vont organiser cette tâche complexe, en espérant que le retour à la maison soit possible rapidement. La majorité des Kosovars n'étaient restés que quelques mois dans les camps albanais. Mais le retour n'a pas été heureux, beaucoup de maisons étaient détruites et il était difficile de trouver un logement. La guerre engendre des déplacements de population, plus longtemps elle dure et plus le chiffre des déplacés augmente. Fin de cette émission, merci d'écouter Alternante en direct sur 98.1 à Nantes et 91 à Saint-Nazaire. Vous retrouvez également les archives de l'écologie sur le site alternantefm.fr. On a évoqué les victimes civiles de la guerre. Personne n'est à l'abri, mais il semble qu'il y ait des zones particulièrement exposées, ce qui nous amène à l'illustration musicale de cette émission. On ne choisit pas où on est et on peut naître dans des endroits particulièrement dangereux. Né quelque part, c'est Maxime Le Forestier.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille.
À la semaine prochaine.
On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage. Chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds.